Radio Okapi. Grande interview.
Bonjour, c'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes nombreux à suivre votre magazine Grande Interview qui reçoit pour vous aujourd'hui le professeur Eugène Banyakou-Louapé. Il est ancien juge à la Cour constitutionnelle, politologue et ancien coordonnateur national adjoint de la Conférence internationale sur la paix et la sécurité dans les Grands Lacs. Il est également ancien conseiller à la présidence de la République et ministre à deux reprises. Il est professeur à l'Université de Kinshasa. Professeur Banyakou, bonjour.
Bonjour, madame.
Et merci d'avoir répondu à notre invitation.
Avec plaisir, madame.
Vous allez bien, professeur ?
Bien.
Alors, avec vous, dans ce magazine, nous allons commenter ce qu'a été l'actualité de la semaine. Comme vous le savez, c'est l'élection des gouverneurs dans 22 provinces sur les 26 que compte la RDC, comme aux élections législatives nationales, provinciales et même aux sénatoriales. Le Front commun pour le Congo, FCC, en sigle, s'impose sur la quasi-totalité des provinces. Avec vous, nous allons faire une analyse sur le déroulement de cette élection et vous nous direz, selon vous, quels sont les défis et qui attendent les nouveaux gouverneurs. Vous nous donnerez aussi, professeur, votre avis sur ce bras de fer entre le Conseil d'État et la CENI sur l'élection des gouverneurs dans la province du Sankuru. Alors, on va commencer par l'élection des gouverneurs dans les 22 provinces sur les 26 que compte la RDC. Comment d'abord, professeur, vous analysez cette élection ?
Merci, madame. Je pense que le déroulement des faits électoraux démontre que l'alliance ou la coalition entre les FCC et les CASH a marché. Moi, je ne peux pas isoler, dire que voilà, les FCC aillent partout. C'est l'alliance FCC. Malheureusement, il s'est fait que le FCC a connu une avance à la fois d'organisation, puisqu'il ne faut pas oublier que le FCC a précédé un peu les élections des 6 ou 7 mois, pendant que les caches, ça s'est formé dans l'entrefait des événements ou des déroulements des élections. Donc, cette avance, je peux la connaître, je peux la considérer comme le fait politique du rural, normal. Maintenant là, le problème, ce n'est pas celui-là, qu'ils aient plusieurs. Le problème, c'est qu'il y ait une bonne gestion de la gouvernance. Donc, je crois qu'il ne faut pas non plus trop dramatiser. Nous avons vu, avant qu'il y ait ces élections, il y a eu tous les gouverneurs ont été nommés par le président, qui relevaient presque tous du même parti, ou de la majorité, l'ancienne majorité présidentielle. Ben, cela n'a pas fait que des bons gestionnaires et cela n'a pas fait que tous ils aillent jusqu'au bout. Donc, prenons de la mesure et puis il ne faut pas se focaliser sur ça.
Alors, pour vous, c'est une victoire de la coalition FCC-CASH, bien que c'est le FCC qui soit en avance par rapport à CASH. Est-ce qu'il fallait s'attendre un peu à ce résultat, professeur ?
Oui, il fallait s'attendre. C'est comme je l'ai dit, le FCC a connu une avance d'organisation par rapport au CASH. Ce n'est que normal qu'ayant préparé plus laborieusement les élections, qu'ils aient cette avance. Mais maintenant là, c'est plutôt dans la suite des faits. Comment cette coalition va gérer la gestion des provinces ? Je pense que le problème, c'est tout ce structure à ce niveau. C'est ainsi que j'ai dit, à ce point de vue, il ne faut pas que nous pensions que, puisque le FCC a gagné, c'est vraiment le règne. Non, c'est pas évident. C'est pas évident, puisqu'il y a quand même des assemblées provinciales. Et puis, il y a toute une opinion qui est derrière.
Dirigée pour la plupart par le FCC.
Bon, pour le FCC, mais ils ont aussi leurs intérêts, puisqu'ils ont été élus. Donc, c'est pas évident. C'est comme j'ai dit, la législature passée, les gouverneurs, ils sont tous été du même parti que la majorité des assemblées provinciales, mais ça n'a pas empêché que nombre de ces gouverneurs aient des difficultés pour la gestion, et soit même certains mis en cause.
Il y a eu quand même beaucoup de mécontents après cette élection des gouverneurs. Beaucoup de gens se posent finalement la question sur cette coalition CASH-FCC. Vous pensez qu'elle va tenir longtemps, cette coalition, professeur?
Il y a deux choses. Je pense que les FCC, en faisant l'alliance avec les CASH, c'est bien noté, c'est une coalition, ce n'est pas une cohabitation. Et donc, il faut tirer les conséquences de ce qu'on appelle une coalition. Dans la coalition, il ne s'agit pas de partager les tâches comme dans une cohabitation. Ici, il s'agit de co-gérer. Et la co-gestion signifie qu'il faut doser qu'est-ce qu'on peut prendre, tout en ayant à l'esprit que lorsqu'il y a dans la même scène politique, il y a une majorité présidentielle qui ne correspond pas à la majorité parlementaire. Nous avons connu ça en 60 et en 64, un peu plus tard. Et d'ailleurs, lorsque la majorité, au niveau même de l'opinion, ça ne correspond pas, la majorité présidentielle ne correspond pas, il y a toujours le problème. Donc, je pense que c'est trop tôt de dire les FCC qui a gagné, les CASH qui a perdu, c'est trop tôt. On va voir comment c'est que, sur terrain, ils vont co-gérer cette République.
Donc, les gens n'ont pas à s'inquiéter, à beaucoup s'inquiéter par rapport à cette coalition.
Non, je pense qu'il faut avoir de la réserve. Mais il faut y mettre de l'intelligence du jeu et de la stratégie. Ce n'est pas en voulant tout prendre qu'on va gagner, puisque c'est aussi bête que ça. Si vous voulez tout prendre, eh bien l'autre qui a la signature, il vous dit, bon, vous prenez, mais moi je ne signe pas. On est dans un blocage. Donc je pense qu'il faut modérer, il faut tempérer, et y mettre un peu plus d'intelligence. Ce que je déplore, ce n'est pas tellement que l'alliance elle-même est mauvaise, mais on y met trop peu d'intelligence. C'est comme si on était dans un match de football. Ici, c'est la vie des gens. Donc, vous n'avez pas chaque jour fait sortir un communiqué, voilà, les FCC dirigent ceci, les FCC contrôlent ça. C'est pas ça de la politique, ça c'est de l'enfantillage. La politique, c'est faire entre les gens assis, qui discutent, qui débattent et qui trouvent des positions. Donc, ici, je pense qu'il faut y mettre de l'intelligence, comme je l'ai dit. Kasavubu et Lumumba, ils en sont arrivés à des cas comme ça, à des ruptures. Kasavubu, Tshiombe, ils sont arrivés à des cas de rupture, puisque l'un ayant la majorité parlementaire, l'autre ayant la majorité présidentielle. Qu'est-ce qui signifie la majorité présidentielle? Tout simplement, le président, pour avoir sa légitimité, il puise dans toutes les forces politiques et sociales du pays. Donc, le président ne dirige pas qu'avec les lois. Le président dirige avec la gestion du pays en tenant compte de toutes les forces. Donc, madame, moi, je mets le seul conseil, c'est qu'on n'y mette pas de l'enfantillage dans cette histoire où chaque soir il y a un communiqué. Bon, on ne fait pas de la politique avec des communiqués.
Au regard des résultats des différentes élections remportées par le FCC, est-ce qu'on ne peut pas craindre que le président de la République ne soit en mesure de contrôler quoi que ce soit sur la marche du pays?
Bon, donnons l'avantage du doute. C'est-à-dire qu'au moins qu'on dise tout est perdu, le président s'est cloisonné, ou bien. Mais si le président fait des sorties politiques, je vais dire, très raisonnables, je pense qu'il peut arriver à reprendre. Puisqu'après tout, c'est le président qui a la signature. Vous pouvez tout dire. Il peut nommer le premier ministre, mais pour révoquer le premier ministre, il ne va pas rentrer à l'Assemblée. C'est lui qui dit, voilà, compte tenu de tel contexte, je révoque le Premier ministre. Alors, on aurait gagné quoi si on fait ces gros dos en disant que nous avons la majorité? Ce n'est pas seulement les chiffres, c'est aussi la légitimité de voix. Donc, si vous n'avez pas cette légitimité, si vous avez triché, si les élections se sont faites dans le montage qui ne sont pas corrects, vous n'avez pas la légitimité, bien sûr, vous avez peut-être le nombre. Mais vous n'avez pas la légitimité. Et ça, c'est encore politique.
Le président de la République, Félix Tshisekedi, se dit déterminé à déboulonner. Déboulonner est un terme qui est devenu très populaire hein, après que le président l'ait sorti dans une conférence de presse. Il se dit déterminé à déboulonner ce régime qui a détruit le pays. Comment pourrait-il y arriver alors que le gouvernement, le parlement et même les provinces sont tous contrôlés par le FCC?
Oui, mais
et ça a créé une grande polémique, hein, ces propos du chef de l'État.
J'ai suivi ça, mais je pense qu'il y a eu malentendu. Et c'est lui-même, d'ailleurs, le président a un peu clarifié la chose. Il parlait du système dictatorial, ou même du régime dictatorial. Il ne peut pas dire je dois déboulonner le régime, sinon c'est lui-même qui serait déboulonné. C'est une pape qui serait déboulonnée puisqu'on peut le démettre. Je pense qu'il faut effacer dans l'esprit de Congolais qu'un jour le Parlement et l'Assemblée et le Sénat ils vont se réunir pour dire nous faisons partie du président. C'est trop beau ça. Ça
ne se fera pas. Possible.
Non, c'est pas possible.
Comment ça?
Puisqu'il peut utiliser la population. Et là, ce n'est pas évident que cette Assemblée possède la légitimité suffisante pour faire partie d'un président de la République. Et quand bien même on ferait recours à l'armée, supposons qu'on ferait recours à l'armée, mais qui aujourd'hui peut accepter, même la population, comment il peut l'accepter de faire partir un président de la République en faveur de l'armée? Je pense qu'il y a des choses qui sont déjà dépassées. Bon, on polémique là-dessus, mais moi je ne vois pas comment est-ce qu'un parlement, même lorsqu'on dit par un référendum, je ne crois pas que le parlement, dans la légitimité actuelle très fragilisée, hein, telle que ça se présente, puisqu'il ne faut pas oublier que nombreux n'ont pas été élus correctement. Donc il faut aussi avoir ça à l'esprit, que la légitimité n'est pas totale. Ce n'est pas un parlement qui a été bien élu, où les gens se sont... Donc il y a là, moi je pense qu'on laisse à l'idée qu'un jour, ou la crainte qu'ils vont, ils peuvent destituer le chef de l'État, ça n'arrivera pas, en aucun moment.
Alors, ça fait déjà presque 3 mois que le président de la République, Félix Tshisekedi, est à la tête de la RDC. Quel bilan pouvez-vous dresser par rapport à son mode de gestion, professeur?
Je ne m'adresse pas, madame, mais je peux, en toute modestie, dire que l'amorce d'une démocratie ou d'un système de gestion démocratique, ce n'est pas facile. Et nous sortons de plusieurs années où c'est un individu ou un groupe d'individus à gérer. Maintenant, nous entrons, la tentative, d'ailleurs, ça a commencé déjà avec les élections du président Kabila. La plus grande difficulté qu'a eu le président Kabila, ce n'est pas tellement qu'il a mal géré, mais il a géré dans des conditions où il ne pouvait pas, avec un entourage que lui-même a dirigé. Il manque même 15 personnes pour diriger 15 collaborateurs. Ça, c'est déjà un handicap. Il manque une connaissance des personnes ou des personnalités avec qui collaborer. Je pense que ça traîne jusqu'à aujourd'hui. Quand on voit le nombre, les énergies qui ont été dépensées, les moyens financiers qui ont été mis, avoir ces résultats, c'est qu'il y a un problème. Donc, alors, ce qui a été fait pour très longtemps pour le président actuel, je pense que ça posera, il y a encore des pesanteurs. Ça, on ne peut pas les douter. Mais il faut lever ces pesanteurs avec intelligence et stratégie.
Professeur Baniakou, dans quelle mesure, selon vous, le président Félix Tshisekedi pourra arriver à exercer son plein pouvoir en ayant un parlement, un gouvernement et des provinces qui travaillent selon sa vision?
Ce n'est pas au président de la République qu'il faut demander, c'est plutôt aux parlementaires qu'il faut demander. C'est comme ça, j'ai dit dès le départ, il faut avoir de la mesure. Hein? Il y a un président de la République installé, vous avez une légitimité douteuse. Donc vous ne pouvez pas penser, bah, si vous le dites, élu aussi, c'est une légitimité douteuse. Mais lui au moins, il a l'avantage d'avoir la signature. Vous n'avez pas là, cet avantage-là. Donc il faut avoir vraiment, je pense que, et vous me posez la question, au cas où le président ne contrôle plus le Parlement, il ne contrôle plus le gouverneur, ce qui je doute très fort. Puisqu'il y aura quand même un ministre de l'Intérieur qui sortira sûrement de l'obéissance du président de la République. S'il ne contrôle plus les assemblées, il fait quoi? Mais il dissout. Il va dissoudre le Parlement.
Mais ce n'est pas facile non plus
de
dissoudre le Parlement.
Mais c'est politique. S'il se trouve plus en mesure de collaborer avec ce Parlement, mais il est dissout. En tout cas, Kassavubu a dissout le Parlement. Mobutu a dissout le Parlement. Bien sûr, malheureusement, il s'en est suivi une dictature. Mais c'est justement ça qu'il faut éviter.
dissoudre le Parlement pour organiser de nouvelles élections.
Oui, ouais, dissoudre le Parlement pour organiser de nouvelles élections. Et ça y est de ses compétences.
Revenons sur l'élection des gouverneurs, professeur Baniakou. Quels sont, selon vous, les défis qui attendent les nouveaux gouverneurs élus? Beaucoup de Congolais se sont plaints quand même de la gestion des provinces par les gouverneurs lors du mandat passé. Vous pensez qu'avec le nouveau régime qui est arrivé, les choses pourraient changer?
Madame, vous êtes une femme intelligente. Moi, je pense, le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a fait de tous les abus qui ont été commis par les anciens gouverneurs. Mais c'est ça la tâche. Et donc, si le président de la République actuelle, il parle de la lutte contre la corruption, je pense qu'il faut un peu corriger, avec toute modestie, il faut plutôt corriger l'impunité. La corruption, ça y est dans tous les pays du monde. Mais lorsqu'on ne s'attaque pas à l'impunité, lorsque même les structures qui sont mises en place, comme on a eu le conseiller spécial chargé, qui avait un homme de qualité, qui a des compétences, qui a eu des dossiers, mais lorsqu'on n'arrive pas à appliquer et à mettre en œuvre des mesures pour éradiquer la corruption, c'est là où c'est pour le problème. La corruption, elle-même, dans tous les pays du monde, ça existe. Mais c'est tellement verrouillé que lorsque vous faites ça, vous tombez. Donc le premier problème, c'est l'impunité. Et ça, c'est je pense qu'il faut que nous tous nous changions. Que c'est dans tous les secteurs. Lorsque vous n'êtes fait, ce n'est pas seulement la corruption, mais lorsque vous faites un abus de pouvoir, surtout public, automatiquement. Et le deuxième élément, madame, c'est, je pense que cela prime aux abus. Vous ne pouvez pas quelqu'un qui a mal dirigé visiblement, ministre défaillant, non compétent, et vous allez l'élever brusquement comme ça là, parce que la plupart de ceux qui sont au Parlement aujourd'hui, ils se sont cachés. Ils viennent des institutions où ils auraient pu rendre des grands services, ils ne l'ont pas fait, maintenant ils vont se cacher. Et c'est une prime. Donc on est même dans la liste, je ne sais pas comment le FCC a traité ces listes de candidats, je ne sais pas comment les CACH a traité les listes de candidats, mais on est au regret de constater que ce n'est pas le Parlement, non seulement en termes de légitimité, mais en termes de qualité et de moralité qui doit se retrouver là-bas. Donc il y a un problème, et puis en fait, un dernier problème, c'est un problème de compétence. Madame, la République ne connaît pas seulement un problème de corruption, un problème de moralité, mais surtout un problème de compétence. C'est comme s'il y a un mauvais sort qui est jeté, qu'on retrouve toujours les personnes le moins compétentes qui sont dans des postes de direction, dans des postes d'animation, des grandes institutions.
Au nom des alliances.
Bon, parfois même au nom du copinage.
On privilégie plus les alliances que la compétence.
Ce
qui tue carrément le pays.
Ah ben non, nous sommes bloqués. Ça ici, les gens ne peuvent pas penser que ça va comme ça s'effacer. Lorsque, moi je ne veux pas utiliser le thème de la médiocrité, mais lorsqu'on privilégie l'incompétence, c'est la destruction totale. Et ce n'est pas qu'on doit présenter les choses comme si on disait que tout le monde est médiocre, mais les gens ne sont pas à leur place, parfois, et souvent.
Mais professeur, quels sont les défis qui attendent les nouveaux gouverneurs?
Le sous-développement dans l'arrière-pays, ça c'est connu. Il n'y a pas de routes, il n'y a pas d'infrastructures, même sanitaires, il n'y a pas d'école. Tout ça là, si nous voyons bien le programme tel que ça a été décidé, il y a le problème d'éducation, le problème de santé, le problème d'infrastructure. Je pense que les gouverneurs, non seulement qu'ils sont dans la jouissance de leur fête, puisqu'ils ont gagné, mais ils doivent penser que les grandes tâches les attendent. Et ces défis sont importants, puisque ça dépendra aussi du mandat qu'ils auront. Si vraiment ils ne lèvent pas ces défis, ben le mandat sera en difficulté, comme le mandat que nous avons connu pour les gouverneurs qui ont précédé.
Le professeur Eugène Baniakou Louapé, celui que Grande Interview reçoit pour vous aujourd'hui, il est ancien juge à la Cour constitutionnelle, politologue et ancien coordonnateur national adjoint de la Conférence internationale sur la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs, ancien conseiller à la présidence de la République et ministre à deux reprises. Il est professeur à l'Université de Kinshasa. Professeur, parlons à présent de ce bras de fer entre la CENI et le Conseil d'État. Vous avez suivi l'actualité dans une note officielle signée par les greffiers en chef du Conseil d'État. Le Conseil d'État a précisé qu'à l'issue de son audience à Kinshasa, sous le dossier opposant le candidat Joseph Stéphane Mukumadi à la CENI, a ordonné la suspension de l'élection de gouverneur et vice-gouverneur de la province du Sankuru. Mais la CENI ne l'entend pas de cette oreille. La CENI dit qu'elle va organiser cette élection sans tenir compte de cet avis consultatif du Conseil d'État sans le candidat réhabilité. Okay. Quelle est votre réaction?
Madame, j'ai dit et je le répète avec beaucoup de responsabilité que la CENI c'est le cancer du Congo actuellement. Et les gens ne se rendent pas compte quels dégâts cette CENI est en train de créer, puisqu'il y a des choses tout à fait logiques. Lorsque les candidats sont présentés avec des critères que vous aviez estimé que tel candidat n'est pas là, et ce candidat introduit un recours, et qu'au niveau d'une institution respectable comme le Conseil d'État, on dit que vous n'avez pas le droit de priver à un candidat le droit de se présenter aux élections. Et vous vous entêtez, vous dites non, mais qu'est-ce que vous cherchez? Que les gens meurent? Que les gens se tuent, puisqu'il y a là dans les fonds, que ce soit dans les Sankuru, comme dans les Sud-Ubangi, il y a une potentialité d'explosion. Mais pourquoi la CENI s'entête? Est-ce que c'est son affaire? Ça, c'est pas... La CENI, comme on le dit, et parfois avec arrogance, la CENI est indépendante. Indépendante, c'est quoi? La CENI est indépendante, c'est comme ça que je dis, je parle encore de la compétence. La CENI est indépendante par rapport, pas par rapport aux institutions, mais par rapport aux opinions politiques. C'est-à-dire, la CENI n'est pas en dehors de la présidence de la République. La CENI n'est pas en dehors des institutions juridictions nationales. La CENI n'est pas en dehors de l'exécutif, puisque vous ne pouvez pas dire que c'est l'exécutif qui vous donne de l'argent, et vous vous dites, non, moi, je ne peux rien entendre. Je pense qu'il faut...
Donc vous êtes d'accord avec l'avis consultatif du Conseil d'État sur l'élection dans les deux provinces?
Même si on n'était pas d'accord, mais c'est de la compétence du Conseil d'État. De dire que là, il y a un abus. Puisque là, il ne faut pas oublier, le Conseil d'État traite des abus et d'excès de pouvoir public surtout. Et là, lorsque vous faites un abus manifestement et que vous avez des échos, je pense que la CENI s'est habituée à voir, non, même si les gens crient, moi, ça importe peu puisque je suis indépendant. Et là, je vous dis, madame, si on ne fait pas attention à la prochaine législature, sur le choix des personnes qu'on met à la CENI. Donc on prépare vraiment un grand, je ne dirais pas un débâcle, mais on est tenté d'enfoncer le pays. Puisque les élections, toute la démocratie tourne autour des élections. Et lorsque vous mettez une institution, comme on dit, une institution de la canaille, c'est-à-dire vous avez livré une république de la canaille. Et ça, ce n'est pas bon pour les générations futures, même pour nous-mêmes.
La CENI estime n'être soumise qu'aux arrêts de la Cour constitutionnelle et non aux avis du Conseil d'État.
C'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance. Les conseils d'État, les élections, normalement la Constitution ne prévoit de la compétence de la Cour constitutionnelle que pour les élections présidentielles et législatives. Et que même là encore, qui organise les élections, les juridictions des recours, d'en bas, c'est-à-dire de provincial, local, ainsi de suite, c'est le Conseil d'État. On a créé le Conseil d'État, c'est une juridiction d'ordre administratif. Et les élections, c'est une compétence d'ordre administratif. Donc, je pense que la CENI s'est perdue. C'est un peu de l'arrogance due peut-être à tout d'argent. C'est peut-être, ils ont perdu les bornes. Le Conseil d'État, c'est le Conseil d'État qui juge de tous les recours. La Cour constitutionnelle n'est réservée que pour les recours en ce qui concerne les élections présidentielles et les élections législatives. Alors, lorsque vraiment les gens disent que nous ne dépendons pas du Conseil d'État, mais c'est de l'ignorance et de l'incompétence. Ils n'ont pas lu les textes.
Y a-t-il une conséquence si la CENI refusait de suivre l'avis consultatif du Conseil d'État?
Je vais vous expliquer, madame. Et ça, je parle en connaissance de cause. Lorsque...
Ça va intéresser aussi nos auditeurs.
Oui, lorsque le Conseil d'État émet un avis sur des questions d'ordre administratif. Ce conseil, il émet l'avis, comme on dit, consultatif, c'est pour vous dire, là, il y a un excès de pouvoir, là, il y a un abus, mais il ne vous contraint pas. Il vous conseille. C'est pourquoi on l'appelle conseil d'État. Il vous conseille. Mais lorsque vous persistez, c'est-à-dire lorsque la faute qui fait infraction persiste, c'est-à-dire l'abus de pouvoir, par exemple dans les cas, vous vous entêtez, le conseil d'État prend alors une décision d'annulation de votre décision. Et ça, ça va aller jusqu'aux ordonnances. Lorsque le président de la République émet une ordonnance, et le président du conseil, le premier président, le conseil d'État dit, monsieur le président, il y a cet entaché d'irrégularité, des procédures ou des... Alors, en dehors de l'inconstitutionnalité, ça c'est de la Cour constitutionnelle. Mais lorsqu'il y a des procédures ou des atteintes à des lois, là c'est le conseil d'État. Et quand le conseil d'État vous donne cet avis consultatif, vous vous entêtez et qu'il constate après un procès, puisqu'ils vont se réunir, il constate qu'il y a eu le refus d'exécuter, le Conseil d'État prend maintenant une décision d'annulation, que ce soit une ordonnance de tout acte administratif qui est public. Alors, maintenant, je voudrais expliquer. Au cas où vous le signez, au cas où la CENI passe outre, mais maintenant là, ça devient pénal. Ah, le Conseil d'État peut engager une action pénale contre la CENI. Et moi, je voudrais que les gens comprennent ça comme ça. Donc, la CENI donne un avis consultatif sur les recours, ici, dans les cas d'espèce, les recours électoraux, mais quand il a pris une décision et que vous refusez d'exécuter, alors, ici, je voudrais aussi faire les distinguos, le Conseil d'État n'a pas annulé les élections. Le Conseil d'État a annulé une décision qui, à son avis, était d'excès de pouvoir ou d'abus de pouvoir. Mm-hmm. Et quand il a annulé cette décision, automatiquement, on peut se dire, ou bien vous réhabilitez celui que vous avez injustement, et dans ce cas, ils vont aux élections. Si vous ne les réhabilitez pas, ben, écoutez, la conséquence est qu'il n'y a pas d'élection. Voilà.
Ça veut dire qu'on annule.
Ah oui, ben, ce n'est pas lui qui annule, mais c'est le fait qui annule.
Merci, professeur Banyakou. Je crois que c'était très clair, hein, pas seulement pour moi avec vous dans ce studio, mais aussi pour les auditeurs qui nous suivent en ce moment, parce qu'on a eu beaucoup de questions par rapport à ce bras de fer entre la CENI et le conseil consultatif. Je crois que les auditeurs ont été éclairés. Le réalisateur me signale que... on n'a plus beaucoup de temps, donc nous sommes à la fin de notre entretien. C'était un plaisir de vous recevoir, professeur. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire à tous ces auditeurs qui nous suivent.
Mais le dernier mot, c'est que ce que j'ai dit, il faut que l'État, comme la société, puisse consacrer l'impunité comme un mode qu'il faut combattre. Et il faut consacrer la lutte contre l'incompétence. Voilà.
Merci, professeur Banyakou. C'est la fin de grande interview qui recevait pour vous le professeur Eugène Banyakou. Il est politologue et professeur à l'université de Kinshasa. Merci à toute l'équipe des grandes interviews. Tina Salama, Michel Kipinda. Merci à Bob Landou qui était à la prise de son, au micro Kéline Couté. Bonne suite de programme sur la présence de la paix.